VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du vendredi 2 décembre 2022, Coupe du Monde de football, le Ghana éliminé de la Coupe du Monde, battu par l'Uruguay 2-0. Multiplication des appels en RDC en vue d'une enquête indépendante après les informations sur un massacre de masse à Kisheshe. En Afrique du Sud, l'ANC reporte sa décision sur le maintien en fonction de Cyril Ramaphosa. Violence politique au Sénégal, nous ferons un retour sur la bagarre en jeu au Parlement.
Donc il y a eu une bagarre où le monsieur femme et pas la femme, et c'est depuis le venu de souffler la dame. La dame a aussi pris une fière qui a balancé le budget, il y a un autre budget qui est venu, la dame connaissait donner un coup de pied dans le ventre. Et la bande semble hospitalisée parce qu'elle serait en santé.
Témoignage et réaction d'Alassane Samba Diop, directeur de la radio Immédiat, dans la partie magazine. Le Congrès américain adopte une loi pour éviter une grève majeure du fret ferroviaire. Le président français Emmanuel Macron boucle sa visite d'État aux États-Unis. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Ghana est éliminé du mondial, battu par l'Uruguay 2-0. Malgré sa victoire, les coéquipiers de Luis Suarez quittent aussi la compétition au profit de la Corée du Sud qui a arraché son billet pour les huitièmes en battant in extremis le Portugal 2-1 ce vendredi à Doha.
Tout à fait Jean-Roger, les Black Stars qui ont encore raté un penalty peuvent s'en vouloir. L'Uruguay élimine pour la seconde fois le Ghana du mondial comme en 2010. Je suis en ligne avec Karim Ben Amor, journaliste sportif à Tunis. Karim, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Roger. Oui, comme vous l'avez dit,
et l'histoire se répéta.
Et l'histoire se répéta. Voilà, petit à malheureusement. Et malheureusement aussi pour l'Afrique, une victoire, c'est-à-dire une autre équipe nationale africaine qui n'arrive pas à prendre son destin en main et à passer au deuxième tour. Ça aurait été très très bien d'avoir trois équipes pour une fois au huitième de finale. Mais malheureusement, le Ghana n'a pas pu prendre ses responsabilités comme il faut. Le pénalty raté de Ayou donc était malheureusement un peu trop apparemment les a un petit peu sortis du match et la défense a pris l'eau. 7 buts pour le Ghana au cours de cette première phase. Je pense que le Ghana, malgré une attaque qui est virevoltante, hein, ils ont marqué beaucoup de buts au cours des matchs précédents, mais la défense a pris trop de buts. Bon, on peut toutefois se consoler par rapport à cette défaite. L'Uruguay a fait une victoire à la Tunisienne, on va dire, c'est-à-dire une victoire inutile puisque la Corée du Sud a pris son destin en main.
Je suis également en ligne avec Abney Agbe Nigan Amouzou, dit coach Fofo, ancien international togolais, fondateur encadreur au centre de formation de football ESIDA dans le Maryland et aux États-Unis. Coach Fofo, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Quand l'histoire se répète, on dit que c'est une farce, mais elle est mauvaise. Celle-là, le Ghana était méconnaissable dans son dernier match de poule, contrairement aux deux précédents contre le Portugal et la Corée du Sud.
Et malgré les conseils de Dia, l'ancien numéro 9 de 2010, qui a prodigué pas mal de conseils avant ce match, je crois que le Ghana a tout laissé derrière. Et malheureusement, comme mon précédent venait de le dire, c'est dommage de voir, on pensait tous voir trois équipes africaines au deuxième tour. Malheureusement, le Ghana a pris les valises et il doit rentrer. Et il doit revoir toute sa composition, refaire toute la construction de l'équipe nationale ghanéenne aujourd'hui et changer des choses pour donner une bonne chance au futur du football ghanéen.
Karim, la Corée du Sud, on dirait le visiteur de minuit inattendu.
Bah oui, écoutez, ils ont pris leur destin en main et puis ils ne se sont pas laissés abattre, ils ont attaqué malgré qu'ils étaient menés au score. un but à zéro sur un but qui est venu très tôt dans le match. Mais les Coréens ont cru en leur chance, ils ont attaqué et ils ont réussi à forcer le destin en marquant ce deuxième but qui leur permet de clouer au poteau, c'est-à-dire pratiquement à la ligne d'arrivée, au finish, l'Uruguay. Bravo aux Sud-Coréens qui nous ont habitués dans le passé aussi à des prestations aussi étincelantes. Comme on dit maintenant, il n'y a plus de petite équipe. Donc la Corée du Sud mérite d'être au deuxième tour. Malheureusement, le Ghana, ils n'ont pas eu l'occasion de prendre la graine, de faire comme les Coréens. S'ils l'avaient fait, ça serait eux qui auraient été en huitième de finale.
Coach Fofo, tout à l'heure, le Cameroun croise le Brésil. Qu'est-ce que vous attendez des Lions indomptables?
Pour moi, ça va être dur. Et en tant que footballeur et encadreur, je te dis que ça va être dur. Mais le football a aussi son verbe à conjuguer. Donc, on attend voir ce que le Cameroun peut offrir à sa nation ce soir, pour pouvoir quand même montrer quelque chose face à la nation du football, du grand football, le Brésil. Tout est possible, comme mon précédent vient de le dire, il n'y a plus de petites équipes, mais le Cameroun doit resserrer les rangs et renforcer ses cadres et aller vraiment à ce match pour tout donner, pour espérer avoir une victoire.
Karim, en quelques secondes, le miracle camerounais pourrait se produire, vous pensez?
Écoutez, les miracles se sont déjà produits. La Tunisie a bien battu la France, mais ayant vu le Brésil face à la Tunisie lors du match amical, il faudrait que le Cameroun puisse avoir vraiment une défense à la tunisienne, pas de naïveté derrière et surtout ne rater aucune occasion devant. C'est la seule manière pour que le Cameroun puisse être ce soir la troisième équipe africaine au huitième de finale.
Jean-Roger, la Serbie va jouer contre la Suisse dans le même groupe.
Le mondial comme si vous y étiez, c'était avec Eric Manirakiza. La suite du journal dans un instant. Personnalité, organisation et diplomates disent être horrifiés et demandent une enquête après les informations sur un massacre dans l'est de la RDC qui aurait fait mardi au moins 50 morts selon Kinshasa, qui accuse la rébellion du M23. Michel Joseph.
Le M23 conteste être l'auteur de cette tuerie et dément être responsable de la violation jeudi d'un cessez-le-feu entre ses combattants et les forces armées congolaises. Mardi, alors que la trêve tenait encore avec l'armée loyaliste, des combats ont opposé le M23 à des milices dans le village de Kisheche, à 70 km de Goma. Des témoins font état d'un grand nombre de morts parmi les habitants qui auraient été assimilés par les rebelles à des miliciens venus les combattre en tenue civile. La MONUSCO a condamné ces actes et appelé les autorités compétentes à enquêter. Elle ajoute que le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a été saisi et se tient prêt à contribuer à l'enquête. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, s'est dit horrifié par ces massacres de masse et recrutement forcé d'enfants. Stephanie Miley, chargée d'affaires des États-Unis, affirme que ces actions pourraient constituer des crimes de guerre. Le M23, une ancienne rébellion Tutsi, a repris les armes en fin d'année dernière. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement, ce que Kigali dément.
Les humanitaires n'ont toujours pas obtenu un accès sans entrave dans la région éthiopienne du Tigré, malgré l'accord de paix conclu entre belligérants il y a un mois, a déploré l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. L'accord est important et j'espère que toutes les parties continueront à s'engager pour la paix, mais l'accord doit être appliqué dans son intégralité, a déclaré aux journalistes le chef de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, lui-même originaire du Tigré. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir, n'est pas parvenu ce vendredi à trancher sur le sort du président Cyril Ramaphosa après la publication d'un rapport recommandant l'ouverture d'une procédure de destitution à son encontre pour malversation financière. Le point avec Rosine Monizero.
L'avenir du chef de l'État est en suspens depuis la publication mercredi de ce rapport concernant la découverte en 2020 lors d'un cambriolage de $2 millions en liquide dans une ferme d'élevage lui appartenant et sur le fait qu'il n'ait jamais signalé la perte de cette somme. La commission indépendante désignée par le Parlement sud-africain a estimé dans son rapport rendu mercredi que le chef de l'État pourrait être coupable d'infractions sérieuses à certains articles de la Constitution et se serait placé lui-même dans une situation de conflit d'intérêts entre ses responsabilités officielles de président et ses activités privées d'homme d'affaires. Cette commission a jugé que Cyril Ramaphosa avait agi d'une manière incompatible avec son mandat, ouvrant la voie à une éventuelle procédure de destitution du président. Le comité exécutif national de l'ANC, constitué d'environ 80 membres, se réunira de nouveau avant le 6 décembre, date de l'examen du rapport par le Parlement, a annoncé le trésorier général de l'ANC, Paul Machatile.
La Côte d'Ivoire a inauguré aujourd'hui un nouveau terminal à conteneurs destiné à doubler la capacité du port autonome d'Abidjan, l'un des principaux en Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire Terminal, la société qui gère ce terminal, fait entrer le port dans une nouvelle dimension, a déclaré Philippe Labonne, président de Bolloré Africa Logistique, lors de la cérémonie inaugurale à laquelle assistait le vice-président ivoirien Tiemoko Meliekone.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le Congrès a adopté hier jeudi une loi pour éviter une grève du fret ferroviaire. Le texte voté dans l'après-midi au Sénat après un vote similaire à la Chambre des représentants mercredi. Le point avec Nathalie Barge.
Le président Joe Biden a indiqué qu'il va entériner le texte dès qu'il sera transmis à la Maison-Blanche. En travaillant ensemble, nous avons épargné à ce pays une catastrophe de Noël, a-t-il commenté dans un communiqué. Face à une menace de grève à compter du 9 décembre, M. Biden avait exigé du Congrès qu'il passe en force au niveau législatif, ce qu'il est habilité à faire en vertu d'une loi de 1926. Une grève du fret aurait fait perdre 2 milliards de dollars par jour, selon l'Association américaine des chemins de fer. Le texte prévoit une augmentation de salaire de 24% sur 5 ans de 2020 à 2024 avec effet rétroactif et un jour de congé supplémentaire. La Fédération des entreprises du rail s'est félicitée du résultat du vote. Cependant, le texte n'impose pas aux entreprises du rail d'accorder des jours de congé maladie supplémentaires à leurs employés, une demande pressante de la part de certains syndicats de cheminots.
Le président a entériné, a promulgué cette loi cet après-midi. Le président français Emmanuel Macron conclut ce vendredi sa visite d'État de 3 jours aux États-Unis par un passage à la Nouvelle-Orléans. C'est une ville emblématique des liens historiques franco-américains où il va faire la promotion de la francophonie. Jacques Aristide.
Emmanuel Macron a eu d'abord un petit déjeuner à Washington avec des représentants des entreprises du numérique. Il doit passer moins de 24 heures dans la ville de Louisiane, jadis française, la Nouvelle-Orléans, New Orleans en anglais, fut vendue aux États-Unis par Napoléon Bonaparte en 1803. Le chef de l'État français va y célébrer un patrimoine franco-américain, mais aussi rendre hommage à la résilience d'une grande ville américaine, endeuillée par l'ouragan Katrina qui avait fait plus de 1800 morts et des milliards de dollars de dégâts en 2005. Après le général de Gaulle en 1960, Emmanuel Macron a donc choisi de faire étape à la Nouvelle-Orléans. Il a prévu d'annoncer un projet ambitieux, le Fonds French for All, pour soutenir l'apprentissage du français partout où il est en jeu aux États-Unis, de la maternelle à l'université. Hier, lors d'une visite débordante d'affection diplomatique, Emmanuel Macron et Joe Biden ont affiché leur unité sur l'Ukraine, manifestant leur volonté de chercher ensemble une issue à la guerre. Ils ont également arrondi les angles sur les différences économiques qui avaient marqué la préparation de leur tête-à-tête dans le bureau ovale.
Les combats continuent de faire rage dans l'est de l'Ukraine, la ville de Bakhmout restant la principale cible de l'artillerie russe, tandis que les forces de Moscou restent sur la défensive dans les régions de Kherson et Zaporijia, a fait savoir l'état-major de l'armée ukrainienne ce vendredi. Sur le terrain diplomatique, le Kremlin a affirmé que Vladimir Poutine était ouvert à des pourparlers sur la guerre en Ukraine, mais que le refus des États-Unis de reconnaître les régions annexées par la Russie entravait la recherche de tout compromis. L'armée syrienne a été directement directement impliqués dans l'opération qui a abouti à la mort du chef de l'État islamique dans le sud de la Syrie le 15 octobre dernier, a déclaré aujourd'hui une source sécuritaire citée par l'agence de presse officielle Sana, Aboul Al-Assam Al-Kemi Al-Qurayshi s'est fait exploser alors qu'il était encerclé par des combattants locaux dans la ville de Jazem. Restez avec nous sur VOA Afrique dans un instant, la page magazine de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Pugilat jeudi à l'Assemblée nationale du Sénégal, un député de l'opposition a giflé une parlementaire, membre de la coalition au pouvoir, ce qui a donné lieu à une bagarre arrangée au sein du Parlement. Ce n'est pas la première fois qu'une telle scène survient dans l'hémicycle sénégalais. Pour parler de l'intrusion de la violence dans le débat parlementaire au Sénégal, Idriss Fall a joint Alassane Samba Diop, directeur de la radio Imedia à Dakar.
Oui, il y a un député de l'opposition de la coalition Yewaskeri, qui appartient au parti le plus, qui a insulté une dame de la coalition au pouvoir, de Mabokhiaka. La violence entre nous, dit-il que le 27 dernier, la dame avait fait une sorte de rappel national en accusant le guide de Moussa Sidibe, le guide du parti le plus au pouvoir, qui a dans l'opposition à l'Assemblée nationale, de n'avoir pas tenu sa parole, parce qu'il avait promis quand. Le pouvoir avait voulu mettre Khalifa Sall en prison de l'accompagner sur ce qu'il n'a pas fait. Et ça a créé des objectifs. La coalition de l'État a demandé des excuses de la part de la dame qui a refusé, en disant que quand Maradou décide d'entrer dans l'arène politique, donc il doit aussi voir ce que le joyeux de cette arène politique. Donc, le rival de politique s'est devenu aujourd'hui très crispé à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une bagarre où le monsieur Femme, le massacre Femme, le député depuis est venu siffler la dame. La dame a aussi pris une chaise qui a balancé le député. Il y a un autre député qui est venu, la dame, qui a laissé donner un coup de pied dans le ventre. Et la dame semble être hospitalisée parce qu'elle serait enceinte.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on a un pugilat à l'Assemblée nationale du Sénégal.
Oui, l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est une foire d'empoigne. La seule chose différente aujourd'hui, c'est que cette fois-ci, cette scène a été médiatisée. Elle a été en direct à la télévision nationale. Donc, ce qui fait que les réseaux sociaux se sont emparés de cette situation pour la mettre un peu partout à travers le monde. Mais il y a eu toujours des coups de poing, des pugilats à l'Assemblée nationale sénégalaise. Mais c'était hors micro, hors caméra. Mais cette fois-ci, c'est vraiment. Ça a été diffusé largement. Et c'est arrivé aussi en contexte assez compliqué. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale est pratiquement en équilibre entre une opposition qui entre en force à l'Assemblée nationale et l'opposition radicale, qui, sur tous les points, sur tous les aspects, conteste ce que la majorité fait. Donc, il y a deux partis et deux coalitions qui se regardent sur le faïence à l'Assemblée nationale.
Et déjà, même, ils avaient donné le ton le jour de la rentrée parlementaire, non?
Oui, bien sûr, ça, le ton a été donné. Mais les députés de l'Assemblée nationale de la coalition de l'opposition, après le Guy Morissania, est monté sur une chaise, table à l'Assemblée nationale, a voulu arracher l'urne. Battre les médias, c'est aussi député à l'Assemblée nationale de la coalition de l'État, arraché le micro. Donc il y a eu des invectives, des joyeuses entre les deux partis. Aucune partie ne donne ne tolère l'autre. Donc, ils sont dans une situation assez compliquée et qui intervient à quelques 13 mois de la élection présidentielle qui arrive. Il y a une contestation de la candidature du troisième mandat que voudrait déposer le président Macky Sall en Guinée. Donc nous sommes dans une situation assez tendue où le dialogue politique est pratiquement rompu, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de troisième voie. Et ensuite, on a l'impression que tous les Sénégalais attendent d'aller droit de l'avenir. En général, dans ce genre de situation, il y avait la société civile qui intervenait pour un peu calmer les esprits. On a l'impression qu'on a franchi le Rubicon au Sénégal.
Alassane Samba Diop, directeur de la radio Imedia au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'avenir politique du chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, 70 ans, est plus que jamais dans la tourmente depuis la publication du rapport sur un scandale lié à un cambriolage chez lui où des liasses de dollars ont été retrouvées cachées
dans un canapé en 2020. L'ANC examine de plus près les faits dans cette affaire qui met son président sous la menace d'une destitution. Le Parlement se réunit mardi pour voter ou non le déclenchement d'une procédure dans ce sens. Pour en parler, Nani Talani a joint André Thomas Aoussen, professeur à l'Institut du droit international et comparatif à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Ramaphosa vient justement de rassembler les nominations pour le congrès du parti d'ici à 2 semaines. Il a pu réunir 2/3 des délégués des organismes de base du parti. Alors il est le candidat favori de la grande majorité du parti. C'est la gauche dans le parti qui essaye de le faire démissionner maintenant sur la base d'un rapport qui a été élaboré par une petite commission et par l'Assemblée sur la base des accusations que Ramaphosa serait coupable d'avoir maintenu dans sa maison, dans sa ferme, un montant en cash. Il y a des témoins qui ne sont pas d'accord sur le montant exact, mais Ramaphosa, lui, il a avoué que oui, il avait reçu $500,000 en cash d'un client qui était venu du Soudan pour lui acheter des bœufs.
Ce qui est reproché au président Ramaphosa, est-ce un crime?
C'est pas vraiment un crime. En Afrique du Sud, oui, il y a un régime de contrôle des devises, de la monnaie étrangère. Et si on est en possession de billets étrangers, il faut faire une déclaration à la Banque nationale et communiquer que oui, voilà, on a un tel montant en monnaie étrangère. Là, oui, il a infraction. Il n'a pas fait cette déclaration. Il y a un soupçon qu'il est en train de cacher l'origine, la vraie origine de ce comptant, et que cela pourrait constituer un crime de blanchissement de capitaux. Mais enfin, ce sont des accusations, c'est pas prouvé. Sur la base de ces accusations, le rapport d'un juge dans la réforme suggère que l'Assemblée nationale devrait initier une procédure d'impeachment, une procédure qui pourrait provoquer la chute de Ramaphosa.
Il y a aussi l'ancien président Jacob Zuma qui est empêtré dans des scandales de corruption. Est-ce que tout cela ne risque pas de jouer en la défaveur de l'ANC?
J'indique qu'à ce moment-ci, l'ANC ne pourrait achever que 41 des votes s'il y aurait une nouvelle élection. Et l'opposition dans l'Assemblée demande déjà une nouvelle élection anticipée sur la base des scandales, sur la base des très grands défis énergétiques. L'Afrique du Sud, dans les derniers mois, n'a plus eu un fournissement régulier d'énergie. Dans la plupart du temps, il y a eu des coupures d'énergie de 8 heures sur chaque 24 heures. Et ça, évidemment, c'est insupportable, c'est très grave. Bon, je suis professeur en droit international et droit comparé de l'Université de l'Afrique du Sud, UNISA.
André et Thomas Aoussen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Une start-up nigériane appelée Vinside utilise la technologie pour aider les malvoyants à lire grâce à plusieurs produits, dont des lunettes intelligentes de lecture qui convertissent le texte en audio. Reportage de David Doyle, récit Nanit Talani.
Mais chaque audience se rend à un cours d'informatique dans la bibliothèque de son école. Le jeune homme de 17 ans fréquente une école pour enfants malvoyants dans la mégapole nigériane de Lagos. Aveugle de naissance, le musicien en herbe s'inquiétait de ce que le monde lui réservait avec le braille comme seul moyen de lecture. Aujourd'hui, il peut profiter de la technologie qui a mis au point une application pouvant l'aider à lire plus facilement.
En fait, je vais préférer cette application car il y a beaucoup de choses que je verrai là-bas et peut-être que ce ne sera pas en braille. Ce sera à vue, donc cette application m'aidera à le reconnaître.
Le regain d'espoir de Meshack Odion est dû à une start-up nigériane appelée Vinsight. L'équipe a développé plusieurs produits, dont une application mobile qui traduit le texte en audio. Le PDG de Vinsight, Kolawole Tomi, explique que ce logiciel est en train d'être transformé en lunettes matérielles.
Les lunettes exploitent à peu près la même technologie que le logiciel, mais à un niveau optimisé. Et ce que ces lunettes font à peu près, c'est qu'elles aident les malvoyants à pouvoir lire ou identifier les objets et les couleurs qui les entourent, et aussi identifier la monnaie. Aussi, au fil du temps, les lunettes pourront aider à améliorer l'acuité visuelle.
Kolawole Tomi soutient qu'il est devenu curieux de savoir comment la technologie pourrait aider les malvoyants après qu'une connaissance à l'université lui a parlé d'un ami qui avait été contraint d'abandonner l'école à cause de la cécité. Un peu plus de 15% de la population aveugle du monde réside en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces personnes manquent souvent des ressources et du soutien nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie de tous les jours. Selon le promoteur, les produits de Vinsight sont utilisés dans les écoles et les institutions et ont déjà atteint environ 5000 personnes.
En raison du changement climatique, la Tunisie connaît une grande sécheresse et un manque de précipitations qui affecte les plantations et le bétail. Momi, une start-up agroalimentaire fondée par trois jeunes Tunisiens en 2019, vient en aide aux agriculteurs et éleveurs en utilisant cette technologie pour prendre des décisions basées sur l'information concernant leurs troupeaux. Les détails avec Blanche Sanou.
Dans une ferme du nord-ouest de la Tunisie, un agriculteur de 54 ans, Abdelkiari, regarde son téléphone pour avoir un aperçu du bien-être de ses vaches. Portant des colliers intelligents, son troupeau est équipé de capteurs directement reliés à une application de gestion du troupeau laitier qui offre des données en temps réel sur la santé et l'environnement des vaches. Abdelkiari est un agriculteur tunisien.
J'utilise l'application depuis 3 ans. Ils ont placé des colliers sur les vaches. Ils ont également installé un capteur à l'intérieur de la grange, puis l'ont connecté à mon téléphone. Je suis toujours l'application et tout va bien. Si une vache est sur le point de mettre bas, l'application me prévient 3 semaines avant. Si la vache est prête pour l'insémination artificielle, l'application me prévient également. Et si une vache ne se sent pas bien, l'application me prévient. Cette idée est très bonne.
La start-up propose donc aux agriculteurs des informations sur le stress thermique, la gestation, la production laitière, l'insémination artificielle, l'activité physique et la détection des maladies, entre autres, pour permettre aux agriculteurs comme Kiari de maximiser l'élevage et la production laitière. Imène Amemi, ingénieur agricole et chargé de communication à Moumi Start-up.
La start-up Moumi a fabriqué un collier intelligent que l'on place autour du cou de la vache afin d'envoyer des alertes sur l'application Moumi, également disponible. Il envoie des alertes ponctuelles à l'éleveur pour lui dire que sa vache vit un stress thermique, que la température a beaucoup augmenté dans l'étable et qu'il doit ventiler ou verser de l'eau sur la vache si nécessaire. S'il y a beaucoup d'humidité, il doit prendre des mesures pour changer la situation afin de créer un environnement propice à la production de lait par les vaches.
Pendant l'été, les vaches de Kiari avaient des températures et une humidité élevées et cela affecte directement la production de lait avec une diminution de 35%. Une situation qui affecte également la fertilité des vaches et rend difficile leur insémination avec des coûts élevés. Avec Moumé, l'agriculteur Abdelkiari arrive à surmonter ces difficultés.
Après 3 ans d'utilisation de l'application Moumi, la production de lait s'est améliorée et les vaches ont trouvé un rythme régulier pour manger et dormir, ainsi que pour boire de l'eau. Cette application m'a beaucoup aidé.
La Tunisie souffre d'une grave pénurie de produits laitiers et les responsables préviennent que si la situation persiste, les réserves stratégiques de lait du pays pourraient s'épuiser dans quelques semaines. I'm
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.